Certains d'entre nous ont grandi avec des histoires de massacres. Des histoires sur ce qui est arrivé à notre peuple il n'y a pas si longtemps. Sur la façon dont on s'en est sorti. À Sun Creek, on raconte qu'il nous fauchait à coups d'obusier. Une milice de volontaires du Colorado, sous les ordres du colonel John Chivington, est venue en 1864 pour nous tuer. Il y avait surtout des femmes, des enfants et des anciens. Les hommes étaient à la chasse. On nous avait donné l'ordre de hisser le drapeau américain. Nous l'avons hissé avec un drapeau blanc. « Reddition », disait le drapeau blanc. Nous nous tenions sous ces deux drapeaux quand ils se sont approchés de nous. Ils ont fait plus que nous tuer. Ils nous ont mis en pièces, mutilés. Nous ont cassé les doigts pour nous arracher nos bagues. Nous ont coupé les oreilles pour prendre notre argent. Nous ont scalpés pour prendre nos cheveux. Nous nous sommes cachés au creux de troncs d'arbres, enfouis dans le sable près des rives du fleuve. Ce même sable est devenu rouge de sang. Ils ont éventré des femmes enceintes pour en extirper les enfants. Ont pris ce que nous aurions voulu devenir. Nos enfants avant qu'ils soient des enfants. Nos bébés avant qu'ils soient des bébés. Les ont arrachés à nos entrailles. Ils ont fracassé de fragiles petites têtes contre des arbres. Puis, ils ont pris les membres arrachés à nos corps en guise de trophées pour les exhiber sur scène à Denver. Le colonel Chivington a dansé avec des membres arrachés dans ses mains, des toisons pubiennes de femmes. Ivre, il a dansé.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Pendant longtemps, ce que nous croyions savoir des Indiens d'Amérique nous était fourni par les westerns. En sortant du cinéma, nous n'hésitions évidemment pas pour dire de quel côté se trouvaient le bien, la civilisation et les héros. C'est dans les années 70 et surtout après la guerre du Vietnam que le regard a changé, celui d'une partie des Américains et donc aussi le nôtre. Des études universitaires ont raconté plus justement ce que fut la politique d'extermination systématique des peuples autochtones, le piège des traités de paix toujours bafoué et l'abandon des survivants dans des réserves laissées à l'écart du progrès. Et depuis, la littérature, avec des auteurs tels que Louise Erdrich ou David Treuer, qui sont venus en parler à ce micro, nous a offert de grands livres donnant des voix inoubliables aux héritiers de cette si cruelle histoire. Tommy Orange, diplômé de l'Institute of American Indian Arts en Californie, où il enseigne désormais, a publié l'an dernier aux États-Unis un formidable premier livre qui s'est retrouvé finaliste du Pulitzer et a été couronné par les prix les plus prestigieux. Ici n'est plus ici, paraît aujourd'hui en France chez Albin Michel dans une traduction de Stéphane Rock. L'auteur, né à Auckland d'un père de la tribu Cheyenne et Arapaho et d'une mère blanche, y entrecroise les destinées d'une douzaine de personnages de tout âge, chacun portant le poids de ce passé non transmis, non expliqué et qui, chacun à sa manière, tente de répondre à la question « Que sommes-nous ?» Eux qui, depuis toujours, ont été définis par les autres, c'est-à-dire par les vainqueurs de l'histoire. Bonsoir Tony Orange.
Bonjour.
Votre livre « Ici n'est plus ici » est un livre, comme on dit, choral. Il y a une douzaine de personnages dont on va suivre les destins apparemment indépendants les uns des autres. Ils vont tous se rencontrer à la fin du livre. Mais ce roman pur est précédé d'un prologue très fort, très ironique sur l'histoire de massacre qui a été celle des populations amérindiennes au moment de l'arrivée des colons. Est-ce qu'il était important pour vous de faire ce prologue basé sur des faits réels avant d'entamer le roman pour nous expliquer au fond ce qui donnait à vos personnages des raisons d'agir? Est-ce que c'est cette histoire mal enseignée, mal transmise aux États-Unis, qui explique beaucoup l'état d'esprit des Amérindiens aujourd'hui?
Oui, je voulais contextualiser la vie des personnages de telle sorte que l'histoire puisse éclairer le présent des personnages. Les Amérindiens, eux, connaissent la vraie histoire, alors que les non-Amérindiens peuvent croire les récits fous que l'on enseigne à l'école aux États-Unis. Mais moi, je voulais parler des Amérindiens urbains qui vivent dans des villes aux États-Unis. Et pour démarrer cette histoire, pour faire comprendre le contexte dans lequel évoluent les personnages. Je voulais expliquer comment les Amérindiens se sont retrouvés dans les villes. Et pour y parvenir, j'ai dû parler d'un phénomène de relocalisation. Donc c'est une politique génocidaire américaine qui a été mise en place pour atteindre l'assimilation des Amérindiens. Tout cela s'est décrit dans le prologue. Mais je voulais parler des faits historiques que les Amérindiens connaissent, encore une fois, pour amener le propos vers la vie des personnages, pour que le lecteur puisse bien comprendre les sentiments et l'état d'esprit des personnages avant que le récit ne démarre. Véritablement, c'était important pour moi de contextualiser les choses pour donner ce cadre historique.
Dans ce prologue, Tony Orange, vous rappelez un certain nombre de choses, par exemple, que pendant très longtemps, sur l'écran de télévision aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle la mire quand les programmes s'arrêtaient. C'était une tête d'Indien au milieu d'une cible, de même que sur beaucoup de pièces de monnaie, il y avait une tête d'Indien. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore, tant d'années après la fin de la colonisation et de l'installation des Européens en Amérique, est-ce que cette histoire-là, l'histoire des massacres, vous parlez d'un certain nombre de batailles comme Sand Creek pour la population Cheyenne, un massacre de 1864, cette histoire-là, elle est sue par les Indiens à l'intérieur de leur communauté, mais elle n'est pas enseignée telle qu'elle, avec toutes ces zones d'ombre, dans les programmes d'histoire, dans les écoles américaines?
Moi, il y a une histoire qui m'a été racontée par mon père, et c'était justement ce massacre. Mais enfant, je ne comprenais pas pourquoi mon père nous racontait sans cesse cette histoire. Peut-être que nous disait-il que nous ne pouvons pas oublier cette partie de l'histoire. Évidemment, c'est fondamental pour notre tribu. Ce n'est que récemment, il y a quelques années, que je me suis rendu compte que l'histoire qu'il racontait était une histoire fondamentale pour lui, parce qu'il y a un jeune homme qui a sauvé un de nos parents de ce massacre. Donc, c'est ainsi que moi, j'ai été amené à comprendre l'histoire amérindienne par le prisme très personnel qui était celui de mon père. Mais dans l'histoire de pas mal de tribus, on voit la différence, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui veulent croire que l'histoire des États-Unis est ancrée dans une histoire très noble, les pères fondateurs et ainsi de suite, alors que l'histoire des Amérindiens, du moins le prisme des Amérindiens, est tel que ce n'est pas l'honneur et la noblesse de l'histoire qui prévaut, bien au contraire. Donc, moi, je voulais... avant le début du récit lui-même, et écrire tout ça dans le prologue. Et pour les non-amérindiens, ça peut sembler choquant, mais en fait, c'est juste la réalité de l'histoire pour les Amérindiens. Et c'est ce qui fait une partie de la différence entre les Amérindiens et les non-Amérindiens aujourd'hui. Et cela est vrai également pour les gens opprimés par la politique américaine dans différents aspects, que ce soit des aspects raciaux ou des aspects de classe. Donc pour moi, encore une fois, il était important de contextualiser les choses pour donner le point de vue de cette communauté amérindienne. Parce qu'évidemment, l'histoire est différente de celle qui est enseignée aux États-Unis.
Alors, il y a dans votre récit, Tommy Orange, des moments où les plus âgés essayent d'apprendre aux plus jeunes des bribes de leur histoire. Il y a un moment très fort qui se situe en 1970, lorsque des Indiens venus de tous les États-Unis et notamment de la Californie essayent d'occuper cette île d'Alcatraz, où, au bout d'un certain nombre de semaines et de mois, ils sont obligés de repartir. On imagine volontiers quand même qu'aujourd'hui, ce genre de manifestation provoquerait des réactions politiques et un certain écho. En 70, ça a été ignoré, et je pense que pour les Amérindiens, ça a dû être une expérience encore plus traumatisante.
Well, this moment in history... À
vrai dire, ce moment historique a fait l'objet d'un petit retentissement. Et après cet épisode, dans le monde littéraire, on a fait beaucoup plus attention aux auteurs amérindiens. C'était la Renaissance des Amérindiens. Donc là, il y a de nouveaux auteurs qui ont pu émerger. Et ce sont des gens qui font partie de la Renaissance amérindienne. Et ça résulte de ce qui s'est passé à Alcatraz. Il y a eu un financement pour éviter les suicides de jeunes Amérindiens. Et nous avons, dans ce cadre, emmené des jeunes sur Alcatraz. Et il y a créé un groupe qui s'appelait les Indiens de toutes les tribus. Et je me suis mis dans la peau d'un jeune Amérindien à qui on raconte cette histoire et comment un personnage comme cela pourrait évoluer en vieillissant. Étant donné que je voulais écrire un roman contemporain et je voulais en fait refléter la vérité de l'histoire, donc ici, dans ce passage, on explique l'expérience de cette femme et comment elle a évolué pour élever ses enfants et son rapport à l'identité américaine.
Il y a un personnage dans ce livre, au point de départ, qui s'appelle Déné Oxendéné, et qui obtient une bourse pour un projet, justement, qui consiste à enregistrer, sans intervenir, les témoignages de tous ceux qui voudront bien venir témoigner devant la caméra. Je voulais vous demander si c'était, au fond, un peu la démarche qui avait été la vôtre pour fabriquer ce récit qui est publié aujourd'hui, « Ici n'est plus ici ».
It's a little bit embarrassing for me because
c'est un petit peu I went in front of a
panel of judges like the character.
Parce que tout comme le personnage, j'ai demandé une bourse et j'ai décrit mon projet un petit peu comme le personnage. Et j'avais l'intention de faire ce projet, mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a lieu que de manière romanesque. Ce projet, je ne l'ai pas vécu, moi. Ce projet n'existe que dans mon imagination et couché sur le papier dans ce livre. J'ai travaillé avec l'organisation amérindienne et puis une organisation caritative pour raconter des histoires. Alors ça, c'est pas la même chose que ce que décrit le personnage. Donc moi, j'ai de l'expérience de conteur. Mais le projet qu'il décrit, lui, ce n'est pas autobiographique.
En tout cas, il y a peut-être un autre personnage dans votre livre, Tommy Orange, qui vous ressemble peut-être plus intimement. Il s'appelle Thomas Frank. Je crois que vous vous appelez aussi Thomas Frank Orange. Et celui-là, c'est un homme plus âgé que vous. Il est concierge à l'Indian Center d'Auckland. Il joue du tambour. Il est le fils d'une mère blanche et d'un père indien, ce qui est votre cas. Avant d'en parler avec vous, on va écouter la lecture de ce que Thomas Frank dit de ses origines.
Avant ta naissance, tu étais une tête et une queue dans un bassin laiteux, un nageur. Tu étais un coureur en sursis, une percée, une arrivée. Avant ta naissance, tu étais un œuf dans ta mère qui était un œuf dans sa mère. Avant ta naissance, tu contenais autant de possibilités qu'une poupée russe nichée dans les ovaires maternels. Tu étais les deux moitiés de 1000 sortes de possibilités différentes. 1 million de têtes ou de queues, le métal lustré d'une pièce lancée à pile ou face. Avant ta naissance, tu incarnais l'idée d'une glorieuse ruée vers l'or ou d'un échec. Tu étais blanc, noir, rouge, tu étais poussière. Tu te cachais, tu cherchais. Avant ta naissance, tu étais chassé, battu, brisé, piégé sur une réserve de l'Oklahoma. Avant ta naissance, tu étais une idée que ta mère s'était mise en tête dans les années 70, quand elle voulait traverser le pays en stop pour faire carrière comme danseuse à New York. Tu étais déjà en route quand elle a échoué à atteindre sa destination et qu'elle a atterri à Taos, au Nouveau-Mexique, dans une communauté hippie qui s'appelait Étoile du Matin. Avant ta naissance, tu étais le fruit de la décision de ton père de quitter sa réserve.
et de se rendre dans le nord du Nouveau-Mexique pour tout savoir sur la cérémonie du peyotle chez les Pueblos. Tu étais l'éclat humide dans les yeux de tes parents quand ils se rencontrèrent de part et d'autre du feu sacré lors d'une cérémonie. Avant ta naissance, chacune de tes moitiés en eux est partie pour Oakland. Avant ta naissance, avant que ton corps ne soit beaucoup plus qu'un cœur, une colonne vertébrale, des os, un cerveau, de la peau, du sang et des veines, que tu commences tout juste à développer des muscles par tes mouvements, avant que tu te montres, bombé dans son ventre, faisant corps avec lui, avant que la fierté de ton père n'enfle à ta vue comme enflait ce ventre, tes parents écoutèrent dans une salle les battements de ton cœur.
Tommy Orange, on vient d'entendre donc les ruminations intérieures de Thomas Frank. Est-ce que là, c'est bien vous qui êtes présent dans ce récit, encore plus que dans les autres personnages, parce que j'imagine que vous êtes un peu dans tous, mais celui-là qui raconte la difficulté d'exister lorsqu'on est le fils de ceux qui ont volé la terre et de ceux qui l'ont perdue. Au fond, en vous, il y a les conquérants et les vaincus, les voleurs et les volés. Ça ne doit pas être facile.
Oui, Thomas Frank, c'est un choix délibéré de ma part. Et je ne cache pas le fait que c'est moi. Non pas que l'ensemble du chapitre soit autobiographique, mais c'est là que j'ai puisé dans mon expérience, franchement, plus que dans les autres chapitres. Et c'est en effet le sentiment qui est le mien. C'est pourquoi j'ai intégré ce personnage dans mon récit. Il y a un conflit inhérent entre le passé de ma mère et le passé de mon père. Pas mal de discordes, de rivalités. Et c'est une belle représentation du conflit que l'on vit lorsqu'on a des parents amérindiens pour l'un et non amérindiens pour l'autre. Les valeurs spirituelles sont différentes, conflictuelles. Et dans ce chapitre sur Thomas Frank, j'essaye d'expliquer comment on peut faire face. On fait partie des deux communautés, mais en même temps, on ne fait partie d'aucune des deux. Pour moi, c'était d'une importance centrale que de relater mon expérience d'avoir grandi à Oakland. Ce personnage m'est venu un petit peu tard dans l'écriture du livre. Et en l'espace de 10 jours, il s'est imposé de manière impérieuse sous ma plume. Et c'est ainsi que ça s'est passé.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you,
take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Nous amener en ville devait être la nécessaire étape finale de notre assimilation. L'absorption, l'effacement, l'achèvement de 500 ans de campagne génocidaire. Mais la ville nous a renouvelés et nous nous la sommes appropriés. Nous ne nous sommes pas perdus dans la multitude de gratte-ciel, le flot de masses anonymes, le vacarme incessant de la circulation. Nous nous sommes trouvés. Avons créé des centres indiens, sommes venus avec nos familles et nos powwows, nos danses, nos chants, nos vêtements brodés de perles. Nous avons acheté et loué des maisons, avons dormi dans la rue, sous des voies express, sommes allés à l'école, nous sommes enrôlés dans l'armée, avons rempli les bars de Fruitvale à Oakland et de Mission à San Francisco. Nous avons habité dans des villages de wagons de marchandises à Richmond. Nous avons fait de l'art et des enfants, avons permis à notre peuple d'aller et venir de la réserve à la ville. Nous ne nous sommes pas installés en ville pour mourir. Les trottoirs et les rues, le béton, ont absorbé notre lourdeur. Le verre, le métal, le caoutchouc et les câbles, la vitesse, les masses déferlantes, la ville nous a avalés. Nous n'étions pas encore des Indiens urbains. Cela faisait partie de la loi sur la relocalisation des Indiens, qui faisait elle-même partie du programme d'assimilation des Indiens qui correspondait et correspond toujours exactement à son intitulé. Qu'ils soient à notre image et adoptent notre mode de vie, deviennent comme nous, et par conséquent, qu'ils disparaissent. Nous sommes nombreux à être urbains, désormais. Moins parce que nous vivons en ville que parce que nous vivons sur Internet, dans le gratte-ciel des multiples fenêtres de navigation. On nous traitait d'Indiens des rues. On nous traitait de réfugiés urbanisés, superficiels, inauthentiques, acculturés. On nous traitait de pommes. Une pomme est rouge à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Mais nous sommes le résultat de ce qu'ont fait nos ancêtres, de leur survie. Nous sommes l'ensemble des souvenirs que nous avons oubliés, qui vivent en nous, que nous sentons, qui nous font chanter et danser et prier comme nous le faisons. Des sentiments tirés de souvenirs qui se réveillent ou éclosent sans crier gare dans nos vies. Comme une tache de sang imbibe la couverture à cause d'une blessure faite par une balle qu'un homme nous tire dans le dos pour récupérer nos cheveux, notre tête, une prime, ou simplement pour se débarrasser de nous.
Tommy Orange, le titre de votre livre, « There is no there », c'est « Ici n'est plus ici » en français, ça veut bien dire que lorsqu'il y a fusion de ces deux histoires dans un même personnage, il n'y a pas d'endroit qui veut dire chez soi. Est-ce que tous les endroits peuvent être chez soi? Ce qui serait au fond le cas pour tous les Amérindiens, puisque la terre entière des États-Unis leur appartenait.
Yeah, this is why when I first.
Oui. Et d'ailleurs, quand j'ai lu la citation de Gertrude Stein, et à l'époque où je me documentais pour écrire ce livre, je voulais lire ce que d'autres écrivains avaient dit à propos d'Oakland. Il y a beaucoup de romans et d'histoires sur Oakland, évidemment, alors qu'il n'y a pas beaucoup de romans sur l'expérience urbaine des Amérindiens. Gertrude Stein a écrit un roman et on lui demande pourquoi elle ne parle pas d'Oakland. Elle dit il n'y a pas de là-bas. Et son chez-soi n'est plus reconnaissable, dit-elle. C'est ça qu'elle voulait dire, en fait. Pour les Amérindiens qui essayent de se battre pour comprendre leur identité, il faut garder à l'esprit ce que c'est, non pas seulement ce que nous pensons, mais ce qu'est la perception des autres à l'extérieur de la communauté amérindienne. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc le pays, comment était-il ce pays? On ne sait pas très bien. Néanmoins, pour être de manière authentique amérindien, il aurait fallu que l'on ait connu le passé, que l'on ait connu nos ancêtres, qu'on ait connu la terre telle que nos ancêtres la vivaient. Et ça, c'est impossible aussi. Donc là aussi, il y a une impossibilité. Donc c'est un roman contemporain que j'essaye d'écrire, mais la seule façon d'être amérindien, c'est d'être ailleurs, d'être nulle part. Et cette histoire des Amérindiens, ce n'est jamais une histoire contemporaine. Les Amérindiens, ils savent piloter des drones, ils savent se servir de téléphones portables et d'Internet. Mais en réalité, on leur assigne une autre identité, mais ce n'est pas la leur.
Mais d'ailleurs, en parlant d'identité, Tommy Orange, il y a quelque chose de très bouleversant chez tous les personnages, quasiment tous, de votre livre. C'est que parfois, quand ils s'aperçoivent dans une glace, ils ont un moment d'hésitation, ils ne se reconnaissent pas. Le visage qu'on leur renvoie n'est pas celui qu'ils pensent avoir. Il y a des enfants qui interrogent leur grand-mère et qui disent « mais que sommes-nous ?» Et puis il y a ce jeune garçon qui a appris tout seul, en se cachant sur Internet, à danser des danses indiennes et qui va s'habiller un jour en secret en indien. Il se regarde et il dit « un indien habillé en indien ». Et il y a ce dédoublement, cette étrangeté que ressentent tous vos personnages qui n'arrivent pas à se voir dans les yeux des autres tels qu'ils se sentent eux-mêmes. C'est une cassure chez tous qui est assez déchirante. C'est une cassure que vous ressentez vous-même encore tous les jours.
I think authenticity when it comes within the community.
L'authenticité dans la communauté, c'est un sujet difficile. Il y a certaines personnes qui croient être porteurs de la vérité sur l'authenticité de l'identité amérindienne. Lors de l'écriture de mon livre, il y a une couverture qui a été proposée. Et c'était un jeune garçon habillé avec un costume amérindien. Et moi, j'ai demandé à mon fils ce qu'il pensait de ça. Et il m'a dit « Dada, c'est toi ?» Et je me suis dit que le livre serait en fait une fausse façon de dépeindre l'identité amérindienne en me cachant derrière, vous voyez. Mais tout ça, c'est très compliqué à mon avis. Parfois, on m'a demandé ce qu'était l'identité amérindienne pour moi. Dans la question, en creux, j'entends « Est-ce que vous faites des danses traditionnelles? Est-ce que vous connaissez la musique traditionnelle ?» Il y a des gens qui me demandent à quel point je suis authentique et si je suis légitime dans cette identité. Personnellement, j'enseigne l'écriture à de jeunes écrivains amérindiens et j'essaie de leur expliquer quel est le point de vue de l'écrivain amérindien. Eh bien, moi, je suis écrivain amérindien et je parle de mes écrits. Et on peut penser que c'est ce que font les Amérindiens, parce que on n'a toujours pas le droit de faire des choses qui ne sont plus en référence avec le passé. Cependant, moi, je pense que la tradition, la langue, doit être perpétuée, mais pour être authentique, ce n'est pas la seule chose qu'il faut respecter.
Mais d'ailleurs, en réponse à cette interrogation, Opal, cette grand-mère qui élève trois jeunes garçons qui s'interrogent sur leur identité, elle dit « mais en fait, on est indien parce qu'on est indien et savoir ne va pas nous rendre plus indiens ». Donc au fond, c'est aussi on peut espérer que bientôt, aux États-Unis, avec l'écriture amérindienne, avec la compréhension de cette histoire, peut-être que cette évidence, on est indien parce qu'on est indien, deviendra peut-être quelque chose de plus paisible à vivre.
Oui,
espérons. J'espère d'ailleurs que mon livre pourra jouer un rôle, modeste soit-il, mais en tout cas, il pourrait apporter une réponse à la question de la légitimité, de l'identité. Alors, il y a des gens qui font semblant d'être ceux qui ne le sont pas, mais je comprends ce besoin de rigueur face à l'authenticité et la légitimité, mais parfois, il y a des extrêmes. Par ailleurs, j'espère que mon livre pourra contribuer à ouvrir l'esprit des éditeurs et des lecteurs. J'espère qu'il leur fera comprendre ce qu'est l'identité amérindienne aujourd'hui, parce qu'il y a 576 tribus reconnues par l'État fédéral américain. Il y a des jeunes Amérindiens qui vivent à Seattle, mais ils ne sont pas les mêmes que des Amérindiens qui vivent en Floride. Peut-être qu'il y a des Amérindiens qui sont gérants de casinos et qui ne parlent pas la langue d'origine de leur tribu. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une immense diversité entre tous les Amérindiens aujourd'hui. Mais nous avons été écrasés par un point de vue monolithique quant à notre identité amérindienne. Il nous faut une compréhension de la complexité, de la dynamique qui est à l'œuvre au fil de l'histoire et qui a forgé notre identité. C'est ça que j'essaye de décrire. C'est ça ma modeste contribution. Mais j'essaye d'expliquer cela parce que pendant trop longtemps, on a permis, du moins on a laissé faire une mauvaise compréhension, une mauvaise peinture de notre identité amérindienne.
D'ailleurs, Tommy Orange, en France, on dit indien. Aux États-Unis, on dit amérindien. C'est absurde parce que, en fait, il y a vous le disiez, des centaines de tribus avec des noms différents. Comment faudrait-il appeler ces hommes et ces femmes qui viennent de tribus différentes et qu'on regroupe par facilité sous le terme autochtone, américain, indien? Comment doit-on les appeler?
Il y a des gens qui sont sensibles à ce vocabulaire. Certains Amérindiens se froissent quand on les appelle Indiens. Mon père, lui, se considérait comme un Indien. Pourquoi pas? Il y a d'autres qui sont plus sensibles à ce terme, parce qu'évidemment, c'est utilisé à des fins de racisme, le terme Indien. Alors, il y a pas mal d'Amérindiens qui veulent être appelés Amérindiens, ou alors appelés selon le nom de leur tribu. Il y a beaucoup de gens qui disent Amérindien, American Indian, parce que ça, c'est le nom qui est survenu lors de la bataille des droits civiques. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils veulent être native tout seul, qui est une sorte de raccourci de Native American, c'est très formel. Là, il y a d'autres personnes qui disent indigenous, autrement dit autochtone. Donc là, c'est lié à d'autres communautés autochtones. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de réponse claire. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Tony Orange, d'être venu ici, parce que je ne vais pas dire que c'est un livre d'un écrivain native ou indien, c'est un livre d'écrivain américain. Il est traduit par Stéphane Rock, il vient d'être publié aux éditions Terre d'Amérique chez Albin Michel, et il est hautement recommandable à tout le monde. Et je vous remercie d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Et merci à Xavier Combes qui nous a permis de nous entendre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.